Las conferències de Radio Languedoc. En 2007, l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes convidèt Jean Tufou per venir presentar son text a propos de les révoltes de 1907, un text titulat « Mort aux fraudeurs ». Aquella conferència foguèt registrada pendent l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes de 2007.
Je me présente rapidement. J'ai été pendant de nombreuses années responsable culturel au niveau du département de l'Hérault. Et actuellement, je suis en charge donc des problèmes de culture occitane sur la ville de Montpellier. Ce qui ne m'empêche pas de m'amuser un peu à quelques écrits dont je vais vous faire part. Alors, 1907, c'est une aventure que je pratique depuis une trentaine d'années, et je la pratique avec de grands papes, j'allais dire. Un vient de partir, c'est Rémy Pêche, un autre est resté sur Béziers, c'est Jean Sagne, et un autre est encore dans la salle, c'est Jean Clavel. Bon, c'est des gens qui ont beaucoup apporté à ce dossier, et scientifiquement et historiquement, je pense que il est complètement, je veux dire, ça manquerait d'humilité que d'aller s'affronter donc à ces gens qui ont fait un travail remarquable. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai travaillé donc sur 1907 à titre personnel dans le cadre d'une émission que j'avais fait pour France 3 il y a une vingtaine d'années au niveau de France 3 Toulouse-Montpellier avec Marie-France de Waas. J'avais travaillé avec Michel Corde qui est un ami avec qui on avait monté le festival du Minervois et avec qui on avait monté sur un texte de Léon Corde, Minerve dos Andes. On avait repris après dans la foulée tout un travail sur les gueux de la Saint-Jean. Donc on avait déjà parlé de 1907. J'avais avec Jean Sagne, dans le cadre de mes activités à l'Office départemental d'action culturelle, travaillé sur une multitude d'expositions là-dessus. C'est-à-dire que c'est un tracé qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, compte tenu de l'anniversaire du centenaire, a son importance. Alors, je me suis commis à une aventure avec mon éditeur Jean-Charles Domens. Je me suis commis à une aventure qui est un peu iconoclaste, et je m'en excuse pour ceux qui sont des historiens très sérieux. Je me suis permis donc d'écrire ce document 1907, Mort aux fraudeurs, en prenant la linéaire des événements de 1907, et j'ai distillé dans cette linéaire des événements de 1907, j'ai distiller un certain nombre de personnages imaginaires qui me permettent de bien poser et qui m'aident à poser les problématiques de 1907. C'est pour ça que vous allez croiser, si d'aventure vous venez à lire cet ouvrage, vous allez croiser Marcelin Albert, dont on a beaucoup parlé et dont je peux reparler parce que c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup et que j'aime énormément malgré ses contradictions. Marcelin Albert croise évidemment Ernest Féroul, le maire de Narbonne, mais il croise aussi un personnage imaginaire qui s'appelle Martin, une dame d'une grande qualité qui s'appelle Diane de Seriège et qui est un personnage aussi imaginaire, un bistrotier qui s'appelle Voltaire et qui a aussi croisé Marcelin Albert, et qui est lui plutôt dans un espace de liberté, qui est un homme un peu anarcho-libertaire. Et tout cela fait un ensemble de chair et de sang qui fait que ça permet d'aborder les événements dans une forme de vie quotidienne qui me paraît importante, parce qu'on ne peut pas comprendre les événements si on ne les décrit pas dans une forme de quotidienneté, de trahison, d'amour, sous une forme romanesque et imaginaire, comme j'ai essayé de le faire. Bon, voilà un peu le cadre. Alors, ce cadre, évidemment, va passer par un certain nombre de problématiques. La problématique de base, c'est comment poser l'espace viticole et vigneron du Languedoc de la fin du XIXe siècle. Bon, d'abord, on a la crise phylloxérique. Et là, on revient à des anciennes et on revient à une réalité historique, la crise phylloxérique, qui déclenche, même si elle n'en est pas la cause absolue, qui déclenche donc cette monoculture de la vigne qui va, à partir donc de la deuxième moitié du 19e siècle, engendrer toute une série de problèmes sur cette viticulture méridionale qui nous touche tous et qui nous touche encore aujourd'hui. Et on a vu dernièrement les problèmes donc qui sont récurrents et qui apparaissent avec les dispositifs européens de ces dernières journées. Donc, monoculture de la vigne liée au phylloxéra, monoculture de la vigne qui se développe avec la mise, et je crois que Rémi l'a dit, ou c'est ce matin, Reynal, sur la mosaïque liée au développement du chemin de fer, qui fait qu'à un moment donné, on va faire pisser la vigne, on fait pisser la vigne, et cette hégémonie de la vigne en Languedoc va amener une richesse à ce territoire, mais une richesse qui est tout à fait aléatoire, et c'est ce que j'essaie de poser dans cet ouvrage imaginaire. Dans le sens... Il s'agit d'un roman, vous avez bien compris, mais c'est un roman qui je n'emploie pas le terme parce que mon éditeur met récit. Alors moi, je ne sais pas, hein, là, je ne fais pas la différence entre récit et roman, mais pour... On peut parler de roman historique. On peut parler de bon, c'est une méthode qui a ses effets peut-être pervers pour des puristes, mais qui moi me paraît sympathique dans l'approche. Hein, voilà. Bon, alors ceci étant dit, donc on a le cadre historique et on a après les personnages. Alors le personnage moi qui m'intéresse évidemment. Le plus dans cette affaire, tout au moins au début de l'opération, c'est Marcelin. Bon, Marcelin, c'est quoi? C'est un petit trublion de village qui a tenu un café, qui a pas réussi à le garder parce qu'il a plus ou moins fait faillite, il a été plus ou moins vigneron, il a eu une formation dans une école de curé du côté de Carcassonne, il a été formé au théâtre, il est même monté à Paris. C'est un homme qui est très théâtreux et il va de ville en ville comme on promènerait une parole. Il va de ville en ville prêcher sur les problèmes de la viticulture. Alors il monte sur un banc, il monte sur un platane. Il y a 10-20 personnes qui l'écoutent. En fin de compte, on l'appelle le cigale et il n'a aucune portée. Et aucune portée sur les événements. Si ce n'est, on dit, bon, mais c'est le fou d'Argelier qui fait son cinéma. Et petit à petit, le problème de la viticulture étant posé de plus en plus de façon, avec une acuité très importante, ben, le Marcelin, il commence à grignoter, il va porter la contradiction, il va même porter la contradiction à des députés, il va porter la contradiction à Féroul, il va porter la contradiction à Sarrault, et sa parole s'alimente de sa faconde, de sa théâtralité, parce que parallèlement, il monte des spectacles théâtraux dans son petit village d'Argelier. Il monte Ruy Blas, c'est pas rien, de Victor Hugo. Il s'identifie à Ruy Blas. Donc c'est un personnage totalement insoupçonné, qui a des qualités par ailleurs extraordinaires et qui va par petits morceaux amener les gens, donc par petits bouts, amener les gens à le suivre dans sa démarche pour la défense de la viticulture. Alors, le premier événement qui marque, bon, on dirait aujourd'hui une médiatisation, Marcelin écrit à Clémenceau. Clémenceau, évidemment, ne lui répond pas. Marcelin Albert, inconnu, etc. Et il profite de la venue d'un groupe parlementaire donc sur Narbonne, avec à sa tête Caso Casale, pour aller s'expliquer avec ce groupe de parlementaires qui arrive à Narbonne, et c'est là où démarrent donc les 87 d'Argelier qui vont à Narbonne, 87. Alors avec un tambour, c'est l'histoire du tambour d'Argelier, où on arrive à mobiliser 87 personnes, on va à Narbonne, on arrive, on est très poli, on pose un certain nombre d'événements face donc à cette commission d'enquête. Et à partir de là, il y a un déclenchement que j'ai appelé dans divers écrits, qui a été suivi dans des écrits de Jean Sagne. Moi, j'aime bien les appeler les 12 dimanches d'un printemps, ou 100 jours pour une révolte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les événements vont aller c'est une sorte d'opéra, Alors, si vous êtes proche de Marcel Albert, vous allez dire un opéra. Si vous êtes un peu plus dubitatif, vous allez appeler ça une opérette. Et Marcel Albert, en 12 dimanches, va amener des milliers et des milliers de personnes à Narbonne, à Carcassonne, à Lézidian, à Béziers, et avec les 500 000 ou les 800 000 personnes de Montpellier. Et ça, ça revêt pour moi un caractère extraordinaire, puisque ça fait plus de 30 ans que je vis à Montpellier. Je me dis où tu positionnes 800 000 ou 500 000 personnes dans Montpellier. Ça me paraît extraordinaire. Et travaillant sur la ville, comme je vous l'ai expliqué très rapidement, cette année, j'ai réalisé avec la direction de la communication de la ville une grosse exposition sur 1907, et j'ai donc travaillé sur les archives de la ville. Et j'ai vu sur les archives de la ville la façon dont cette manifestation avait été réalisée. Et je suis tombé complètement par terre de voir l'organisation de cette exposition. C'était quelque chose d'extraordinaire, et tous les syndicalistes de la CGT, de Faux et d'ailleurs, qui sont des grands organisateurs d'expos, pourraient aller regarder dans les archives la façon dont ça a été coordonnées au millimètre, de façon à ce que l'ensemble des manifestants puisse arriver dans des conditions de recevabilité extraordinaire, avec une organisation. Alors, les chevaux étaient pris en charge à tel endroit, le foin était prévu, les trains, l'organisation des trains, tout. C'est extraordinaire. Et alors, dans le récit, dans le roman, j'ai insisté sur cette manifestation de Montpellier, qui arrivait après l'ensemble des manifestations après ces 12 images d'un printemps que j'aborde d'une autre façon. Alors ça, c'est le premier point, c'est ce Marcelin Albert, personnage complètement pittoresque, qui, on l'a vu tout à l'heure avec Rémi, on l'a vu ce matin avec Reynal, va s'effondrer totalement dans la rencontre avec les Manceaux. Il est monté dans le symbole, il s'effondre dans le symbole. Mais quelque part, ce qui, à mon avis, lui est fatal, c'est ce côté unanimiste. C'est-à-dire que Marcelin Albert ne prend pas de position politique précise, c'est-à-dire que il prend le schéma de la crise avec l'option des fraudeurs, c'est le titre de l'ouvrage, Mort aux fraudeurs. Il en a que contre la fraude, et il ne va pas dans une analyse politique des plus subtiles, contrairement par exemple à Féroul, qui est le maire de Narbonne, qui n'est pas du tout favorable au mouvement, au début du mouvement, et qui prend, on pourrait le dire, on peut le dire, on peut en débattre, le train en marche, mais qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est lui qui politiquement reprend toutes les billes du mouvement, parce que à un moment donné, il pose les choses politiquement parlant, il pose les choses face à l'État français, face à Clémenceau, parce qu'il pose des revendications précises de démission des municipalités, de grève de l'impôt, etc. etc. Donc Féroul prend les destinées du mouvement en main au sens politique du terme. Et c'est là où il y a une ambiguïté. Donc on a un personnage mythique, symbolique qui est Marcelin, un politique qui prend les affaires en main et qui, après les épisodes de la prison de Montpellier, est reçu en héros à Narbonne, et c'est le grand triomphateur du mouvement, alors que Marcelin est complètement honni par ses condisciples, et qu'il se retrouve argelier, complètement perdu après ces événements. Bon, on pourra y revenir si vous voulez, si vous avez des questions par rapport à ça. Alors je crois que ce qui est important aussi dans la linéarité de l'opération et de ce cheminement, c'est de voir les ambiguïtés du mouvement du radicalisme. Ces radicaux qui tiennent le pouvoir de la Troisième République, qui sont des gens qui ont favorisé la Troisième République, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, qui, dans un premier temps, favorisent le mouvement, notamment avec celui que l'on appelle le petit père Combes, qui favorise le mouvement dans son départ, et qui après massacre le mouvement avec les Manceaux. Et ce sont quand même les radicaux, avec toute l'ambiguïté du positionnement. Alors ce matin, l'intervenant parlait des ambiguïtés avec les socialistes et les radicaux, etc. Mais enfin, il faut savoir que les radicaux étaient les radicaux et les socialistes étaient les socialistes. On n'est pas dans la configuration politique d'aujourd'hui et dans des choses qui seraient plutôt de type d'alliance. À cette époque-là, les socialistes combattaient les radicaux. Donc il faut bien se reposer dans les positionnements de l'époque. Alors ce que j'ai essayé de montrer donc dans le roman, c'est par la finesse des mouvements, la façon de se positionner dans toutes les ambiguïtés de l'espace de 1907. Alors le personnage qui est un peu le vecteur de l'affaire, eh bien c'est un égaré de 2007 à 1907. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer aussi que le combat d'aujourd'hui de la viticulture était un combat excessivement pertinent et que on pouvait déjà peut-être en 1907 se poser le problème de la qualité. Donc j'ai un dialogue de qualité qui se pose entre le héros, l'image et le héros imaginaire qui s'appelle Martin et qui se sent pas bien dans ce mouvement. Il est solidaire mais il se sent pas bien. Il sent qu'on va dans le mur, que cet unanimisme fait qu'à un moment donné le mouvement de 1907 va dans le mur dans le sens où cet unanimisme il est de façade, qu'à un moment donné les gros propriétaires sont derrière, qu'il y a des manipulations, y compris, on en a parlé dans la journée, des manipulations de l'Action française. Ce n'est pas neutre si le cardinal de Cabrières à un moment donné agit comme il agit sur la ville de Montpellier et qu'il ouvre les églises. Rémy a relativisé en disant que on avait aussi ouvert les écoles, mais dans la mythologie reste l'ouverture des églises et c'est fort intéressant. Donc il y a cette ambiguïté là et cette ambiguïté là j'essaie de la positionner donc sur le personnage imaginaire de Martin et un deuxième personnage imaginaire d'une demoiselle, d'une dame qui est veuve mais qui est très jeune, qui s'appelle Diane de Sériège et qui elle aussi est sur le principe de qualité. Alors Diane de Sériège, elle est dans une ambiguïté totale, elle travaille à la qualité. Évidemment, il y a une histoire d'amour entre les deux héros, mais elle est la fille d'un grand propriétaire. Et le grand propriétaire, je l'ai inventé sans l'inventer, mais c'est le grand propriétaire, évidemment, c'est un peu le chef de la fraude, c'est le chef des fraudeurs, et c'est le chef de ces gens qui sont vraiment à la tête de la viticulture languedocienne, et qui font pisser la vigne et qui manipulent l'ensemble du dispositif. Et là-dessus, j'ai tapé, parce que bon, ça me faisait plaisir de taper sur ce personnage-là, je le rends horrible avec cette fille qui est dans l'ambiguïté, qui n'accepte pas le positionnement de son père qui est un fraudeur qui va à 7 qui trafique avec peut-être le vin d'Algérie et qui trafique aussi avec ces gens betteraviers du Nord et d'ailleurs qui font du vin sans du vin, c'est-à-dire avec 4 raisins secs, un peu d'eau, de l'acide, machin truc. Enfin, il y a toute une série de compromis qui sont excessivement intéressants. Est-ce que je suis dans les temps là? Oui. 7-8 minutes. C'est difficile. J'ai envie de vous laisser la parole. Voilà un peu. Alors, si vous voulez, peut-être, en guise de conclusion, j'ai donc ce texte qui est un récit, comme l'a dit judicieusement le monsieur, qui est un récit imaginaire. Et j'ai accompagné d'un texte que j'ai écrit pour Jean Gers, qui est un ami que vous connaissez certainement, et qu'il a mis en bouche ce texte-là par rapport à un projet sur le Haut-Languedoc dans la région de l'Hérault. Et ce texte, il accompagne donc des chorales, il accompagne toute une série d'événements sur 1907. Alors peut-être qu'en guise de conclusion, je vous en lis un petit morceau pour vous mettre dans l'ambiance. Et après, si vous avez des questions à me poser, je répondrai à vos questions. Alors je vais lire la fin de ce texte que j'ai intitulé « Le clairon », parce que le clairon a un côté symbolique et mythique dans cette aventure. Et je vais vous lire donc la fin du texte. Voilà, donc « Croissant l'air ». Qui sont ces conscrits de la révolte? Les allées bouillonnent. Je reconnais Lucien de Capestan, il est clairon. On souffle comme des damnés, des mutins qu'on a dit, nous, régiment d'Auvergne et des mutins, nous les enfants d'Henri IV, régiment des campagnes d'Espagne et d'Algérie, finir comme des parias. Sonne, clairon, sonne. Aguerrem paules perlus nostres, vous comprenez? Car on était tous d'ici. Cette occupation militaire du Midi, on ne la voulait pas. On était contre l'arrestation du chef de la viticulture. Allez à Béziers, une balade. retrouver les amis, souci de protection, de fraternité, mémorable souvenir. L'erreur, c'est de nous avoir envoyés à Agde pour manœuvrer. En Agde, la journée a été faussement calme. Les trublions ont incendié la paille de notre casernement. Diversion, vol de poudre, la confusion régnait. On entre dans la ville endormie, tambour, clairon, sonne la charge. Est-ce une histoire de clairon, sonne. Sur la table de Marty à Argelier, j'ai lu plus tard ce texte de Montéus. Légitime était votre colère. Sur les allées, ce n'était pas compliqué. Des morts, ceux de Narbonne, avaient suffi. Gnoprou. Refusant de rougir vos baïonnettes, on n'allait quand même pas tirer sur nos familles. Plus tard, Lucien écrivait de Gafsa. C'est le soleil qui les matraquait. Sous la tente, chauffe le sirocco. Quel voyage. Marcelin répétait sans cesse. Unissons nos destins. Marcelin nous indique le chemin. Le vin, âge d'or en décadence, ces beaux messieurs du négoce portent chapeau. Jongle avec la fortune. Folie des coffres forts, folie des châteaux forts. Au centre de tout, le vin. On fera pisser la vigne. Il faut bien assommer le prolétariat nordique. 1907, c'est la révolution. Une croisade. Avec ce bistrotier de rien du tout, théâtreux en alexandrin, fragile, il vole le rôle-titre à Féroul, manipulable. Pour lui, le drame, c'est la fraude, tous ensemble contre les fraudeurs. Analyse simple. Mais le cigale triomphe. L'affaire ne va pas sans des élans de démagogie. Hurlons contre la fraude, contre l'État. À Montpellier, l'enthousiasme populaire atteint son apogée. On lui tend les enfants, on lui fait signer des photos, on lui baise les mains. C'est lui l'apôtre, le rédempteur, le sauveur. Voilà, ça c'est le texte donc qui accompagne la création des gens. Et voilà, si vous avez des questions pour être en l'étang et pour aller suivre la dernière conférence. Je m'excuse d'avoir un peu matraqué, mais j'avais peu de temps.
Vous semblez bien connaître les événements et finalement, enfin, vous en êtes expliqué un peu. C'est pas inintéressant, c'est plutôt une observation qu'une question. C'est le fait d'avoir choisi la fiction, c'est-à-dire le roman. Bon, on verra ce soir comment les gens de la rampe se sont acquittés par le théâtre de ce compte-rendu de l'événement. Bon, je pense qu'effectivement, c'est des formes littéraires qui, comme vous l'avez dit assez justement, permettent peut-être notamment de donner des éclairages plus précis en s'appuyant sur un personnage fictif, tel ce grand propriétaire, qui j'imagine également sans doute négociant, puisque on sait que la fraude était liée au négoce et certains négociants, enfin certains cumulaient, si je peux dire, les deux occupations, celle de grand propriétaire et négociant. Donc, bon, c'est plutôt un compliment qu'une question. Voilà, le fait de choisir la fiction, pourquoi pas, sachant que c'est pas éminemment répandu. On connaissait la chanson déjà à travers Marty ou à travers le couple Rouquette-Marie-Rouanet. Et finalement, de fiction, enfin à ma connaissance, il n'y en a peut-être pas énormément sur 1907. Voilà. Donc, roman historique.
Oui, si vous voulez, moi j'ai une petite formation d'historien. Il y avait tout à l'heure des grands professeurs là. Et je crois qu'il est parti, notamment un professeur de Nîmes que j'avais entreaperçu au niveau de mes études à Paul Valéry. Bon, je travaillais avec Gérard Cholvy qui vient d'écrire un livre. Il s'y m'entendait, il serait pas content. Un livre donc sur Monseigneur de Cabrières. Donc j'ai travaillé sur l'histoire et notamment j'ai une petite spécialité entre guillemets sur l'histoire des mines. Puisque je suis originaire du bassin de l'Hérault, du bassin de Grèce-Sacre, le Bousquet-Dor, et j'ai beaucoup travaillé au niveau historique sur les mines. Donc j'ai écrit trois livres d'histoire sur les mines. Bon, ça fait partie de mon parcours. Et ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai eu envie de bifurquer à partir de l'histoire sur de la création. Et donc je me suis commis à quelques aventures créatrices entre guillemets, notamment sur les mines. J'ai écrit un roman, un récit que j'appelle les bénis dans de mine. Et là, sur 1907, j'avais envie de laisser une petite trace, mais c'est vrai que j'allais pas m'attaquer à un bouquin historique, dans le sens où les collègues l'ont fait de façon magistrale. Je me suis dit, bon, là, t'as quelque chose d'inédit à faire, et je l'ai fait de façon inédite, à tel point que Rémi, chaque fois qu'il me voit, il me dit, tu vas être excommunié, je vous en dis pas plus, si vous achetez le bouquin, vous comprendrez pourquoi.
Bon, à Venfa, direi pas l'outour, perso que Sirio, qui compte de belo un peu prétentieux, de pas dire, mais en fait, avec plat, Caïdra, si pour dire, 1907, la dernière conférence, portera sur la cause et la conséquence. Bon, espérez que pour tout le monde, la cause commence d'être claro. Bon, sabi qui dit la salle, on n'y a que travail ou la question, un peu un brave moment, vas-y, à qui est Jelly Darbousset. qui nous farguette le projet académique à Questan, sous à quel pu, bon, toute une fune des dourciers, des photographies, d'archives. Bon, il y a d'autres, elle se dit la salle, quand on travaille à la cause. Il y a au Kéripa de la région, et force à presse, sus la région, justement, sus la vigne. Il y a au Crésier, qui est l'ouvrier, qui est roi de toute éternité. Et pense, à mais si c'est pas d'acquis, d'autres qui sont d'acquis, ou pense à vous taber. Et quand on regarde des proches, las causes, on veut que la monoculture viticole a gairebé 100 ans, pas gairemaï. Hein. Avant, il y aura une région des polycultures, comme toute la campagne française, gairebé, à Despard, dans le nord du bassin parisien, où déjà, à la fin du siècle des Zénaud, justement, la betterabe et l'oublat commencent à vous d'être des monoculture, qui ont constitué l'ous lobby qui roue contre la taxe du sucre, qu'on avait parlé tabé, toute la journée. Donc, c'est une trappe qui, 1907, bah, il y a un éclairage à l'encop, ségur régional, mais tabé national, sur la représentation, comme ça n'est pas là un peu tout tard, parce que les députés sont représentants de lourds et légites. Hein. Et si on passe à Taki, d'illuminer de jour, gaillerait littoral, d'une agriculture diversificada à une monoculture et des crises, comme disent les spécialistes, cyclicos, socio-sanitarios, socio-economicos. Baki.
Peut-être encore un mot, si vous permettez, j'étais rapide. Il est vrai que bon, Rémi y a fait allusion, mais on a fait, dans le courant de l'hiver, une conférence commune avec Jean Sagne, où on se posait le problème de la marque régionale des événements de 1907. Ça me paraît excessivement important. Alors là-dessus, on a un grand débat avec Jean, avec Rémi, avec d'autres, et tout au long de l'été, je crois qu'on va, on va se suivre et se poursuivre pour parler de cela. Ce que l'on disait l'autre jour avec Jean Sagne, on disait, voilà, Montpellier, 500 000 viticulteurs, 600 000, avec bon, 90 à 95% de gens qui parlent occitan. On dit pas occitan à l'époque, on dit languedocien, on dit patois, peu importe. Mais on est dans ce niveau-là, avec une conscience identitaire occitane quasiment nulle. Faut se le dire, il faut être conscient de ça. Par contre, l'autre jour à Vézier, 20 000 personnes, dont 90% ne parlaient peut-être pas occitan, mais avec une conscience identitaire régionale occitane forte. Ça, c'est intéressant, hein, dans le rapport de force, on discutait de ça, et ça nous paraissait intéressant. Alors après, bon, qu'est-ce qui se passe sur ce mouvement-là, s'il n'y a pas une conscientisation? Il y a quand même des événements forts. Moi, je voulais commencer le topo tout à l'heure en disant, 1907, je l'ai connu à 20 ans. Avant 20 ans, je ne savais pas ce qu'était 1907. Il a fallu que j'aille faire un stage d'éducation populaire à la Ligue de l'enseignement pour connaître les événements de 1907. L'école ne m'a rien appris sur 1907, comme l'école ne m'a rien appris sur les Qatars. Il a fallu que j'attende une émission de Stelio Lorenzi en 1964-65 pour entendre parler des Qatars et m'y précipiter et m'y engouffrer. Donc, c'est pas neutre. Hein, quand je disais Minerve d'eau, Saint-Dette, les gueux de la Saint-Jean, tout ça autour d'un festival qu'on avait monté il y a maintenant une trentaine d'années. Donc là, il y a un manque parce qu'on était complètement dans une vergogne, pour ne pas dire une vergognasse de notre culture et de notre langue, de notre histoire, etc., etc. Ça, je crois que c'est important. Et sur 1907, à un moment donné, c'est le flash, on dirait le flash aujourd'hui, Marcelin Albert, qui arrive, qui tombe en panne devant la cité de Carcassonne, qui écrit le discours comme ça sur le capot avec tous les copains d'Argelier, puis il dit voilà, bon, Carcassonne, au Qatar, et ça déclenche et ça démarre de nouveau. Et puis il y a Féroul qui est un fait libre. Féroul est un fait libre, dit fait libre rouge. C'est pas neutre aussi dans tout l'espace des faits libres. Il y a le rendez-vous raté avec Frédéric Mistral, mais il y a la tentative de rendez-vous. Et Rémi l'a rappelé tout à l'heure. Donc c'est quand même intéressant, et on sent quand même dans cette révolte du Sud les marques de quelque chose qui, même s'il est sous-jacent, est quand même réel. Moi, j'ai tout fait dans le principe de la réalisation de l'expo qu'on a en ce moment sur la ville qui va hélas disparaître puisque bon on est dans les délais là qui finissent. J'ai essayé de faire en sorte avec les copains de la communication de dire voilà, il y a quand même une conscience occitane derrière tout cela. Bon, le dire une conscience occitane, c'est galvauder le truc, le mot qui n'existait pas. Mais il y a une conscience du Sud qui me paraît fort importante. Ça, je voulais le dire, mais j'étais allé tellement vite que j'avais oublié.
Je crois qu'on peut remercier Monsieur Tufou également pour ses précisions. Voilà.
à causer à la conférence de Jean Tufou après poste de son écriture sur la révolte de 1907, titulade « Mort aux fraudeurs ». Fouguet registrade en juillet de 2007, pendant l'Universitat Occitane d'Estiu de Nîmes.